Salut, Luc.
Salut.
Hey, avant qu'on passe au sujet de ta chronique, je me demandais, après ton intervention d'hier sur la radio X de Québec, radio pirate si rebelle, est-ce que les trolls des animateurs vedettes là-bas sont venus cogner à ta porte virtuelle?
Non, pas tant que ça.
Ah, non.
Quelques-uns seulement. Puis ils ont fait des déclarations sur leur propre site. Là. Ben, pas mal moins que ma dernière déclaration où là, il y a eu quelques centaines. Là, non, c'était. J'imagine que j'avais été mesuré dans mes propos. T'sais. Fait qu'ils ont dit ah, ben c'est un bon yard, puis on va le laisser tranquille.
OK, hey, je veux t'entendre aussi sur la volte-face du gouvernement à propos du port du masque à l'extérieur.
Ben bravo, tu sais, c'est pas évident de faire une volte-face, puis je pense qu'ils avaient des raisons. Tu sais, des fois, tu veux défendre, comme Madame de la Sablonnière l'a dit, défendre la cohérence, dire que les décisions que tu as prises ont été prises après réflexion, avec sérieux, en consultant les personnes, les experts, et donc, tu veux pas reculer, parce que ça donnerait l'impression que tu as pris la décision sur un coin de table. Mais là, au contraire, non, ils ont choisi de reculer. Puis ça, c'est l'approche de Legault. C'est des fois, il fait un pas en avant que oups, on se demande c'est quoi ça. Puis il arrive à reculer dans certains cas. Alors bravo à eux.
Écoute, t'es un grand défenseur des parcs. T'étais responsable des parcs, des grands parcs à la ville de Montréal. Toi, là, de voir des gens qui prennent les parcs d'assaut quand il fait beau comme ça en temps de COVID. Est-ce que ça vient te chercher ou tu trouves que c'est juste une réaction normale?
Ouais, c'est plus que normal. C'est ça qu'il faut faire. Les parcs, c'est un outil de socialisation, un outil de rencontre. C'est toujours mieux de faire quelque chose dans le regard de l'autre que de le faire dans l'intimité, à part certaines activités.
Qu'on ne nommera pas, mais qu'on comprend tous.
Mais dans tout ce que tu fais dans la vie, là, jardiner, jouer à pétanque, jouer au fer, manger, cuisiner, tout ce qui est fait dans le regard de l'autre amène de la paix. C'est comme, tu vas dans un camping, tu vois les gens qui mangent, tu vois les gens qui s'installent sur leur chaise, soit sur la plage, des gens qui se passent de la crème sur le dos. C'est ça qui crée cette espèce de rencontre, cette rencontre passive des autres, là, pas tout le temps active, c'est pas tout le temps des gens qui se parlent. Juste le fait de partager le même lieu, puis de voir les autres, c'est ça qui crée la société. Puis aussi, c'est ça qui fait beaucoup, beaucoup diminuer les préjugés. Par exemple, tu vas voir une personne que tu connais pas des Arabes, par exemple. T'en connais pas, t'en as jamais vu. Tout ce que tu connais d'eux, c'est ce que tu as vu à la télévision. Puis là, tu vas voir un père arabe qui dit à son fils, « Ramasse ton papier à terre. » Et tout à coup, ta perception des Arabes, c'est « Ben, ils sont comme nous. » Tu sais. Et ben c'est comme ça. Les parcs, voir les gens vivre dans les parcs, c'est normal et essentiel à la vie de communauté, à la vie en communauté.
C'est un piano que j'entends en arrière?
Attends une minute.
Henri, je suis à la radio!
Calibois, j'y ai dit 1000 fois, en tout cas.
Bon. Hey, c'est tellement pas grave.
Attends une minute.
Non, dis qu'il continue. Non, dis qu'il continue, c'est correct.
non, merci.
Ben non, il n'y a rien là.
Non, je veux qu'il sache pour les autres fois.
Il joue du piano, Henri.
Ben, il essaye.
Il a l'air bon?
Ben non, il essaye, il commence, il fait juste commencer.
Hey, écoute, il est supposé, c'est ton enfant, là, t'es supposé de l'encourager. Là.
Oui, devant lui, il m'entend pas. Là, mais,
non, mais
nous, on l'entend, mais lui,
écoute,
il m'entend.
Vraiment, là, il est assez loin. Je ne savais pas qu'il y avait un piano chez vous. Ouais. Hey, parle-moi, au micro de Bernard Drinville, hier, il y a Mme Rouleau qui a dit, là, soupçonné que le projet de ligne bleue du métro là, serait en train de partir en vrille. Est-ce que c'est vrai?
Pas pantoute! Hey, Madame Rouleau qui part, toi, toute voile dehors, les écoutilles levées, sabre au clair. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent l'émission, là, mais sabre au clair, c'est une belle expression française qu'il faut utiliser souvent.
Ça veut dire que tu sors ton clair de son sabre de son étui.
De son étui, il est au clair. Fait que elle sort, toi, puis elle explique que elle a vu les coups exploser et que. Elle va redresser la patente, puis en plus, elle en rajoute, c'est à cause du constructeur, c'est à cause du tant qu'à, tu sais, tant qu'à faire, on va en rajouter. Quelle pile de préjugés épouvantables. Je suis sûr que Mme Rouleau va assister à la première rencontre du comité qu'elle a mis en place, là, puis qu'elle va comprendre qu'il n'y a peut-être pas tant de possibilités de coupure que ça. Moi, je tire cette expérience-là de mon expérience au grand projet où j'ai à peu près 1000 fois perdu ma mâchoire sur la table. Il a fallu que je la récupère avec mes lunettes en écoutant les explications qui sont valables. Mais à un moment donné, c'est maudit que c'est mal fait. Regarde, Premièrement, et surtout, elle a mis tout le monde de son côté, parce que là, ça donne l'impression que le gouvernement va arriver, puis que la méchante STM avait dépassé les coûts, puis là, eux, ils arrivent, puis ils vont mettre de l'ordre là-dedans.
Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a un dépassement de coûts?
C'est certain qu'il y a un dépassement de coûts, là. Je sais pas c'est combien, mais pour qu'elle intervienne comme ça, ça doit être au moins 1 milliard. Fait que on passe de 4,5 à 5,5 minimum, ben, minimum, je suis sûr de ça.
Mais en même temps, je me souviens du métro de Laval, je pense que ça avait été assez costaud comme dépassement.
Il crime pas, il a été évalué à 120 millions puis il avait coûté 800 millions, tu sais ça, on n'était plus dans le dépassement de coûts, on était dans un autre univers.
Fait aujourd'hui, 20 ans plus tard, on serait dans un dépassement de 1 milliard.
Minimum, j'en suis certain. Mais regarde, premièrement, les projets, c'est l'idée que la STM en beurre épais, qu'elle aurait mis des escaliers en marbre partout, qu'il y aurait des salons de massage dans les wagons de métro, un instant, c'est pas de même. Premièrement, il y a plein de normes. Des normes qui n'existaient pas avant. Accessibilité universelle, il faut qu'il y ait des ascenseurs partout. Les escaliers mécaniques, ça compte plus. Tu vas à Paris, c'est juste des escaliers pas mécaniques, hein? C'est juste des escaliers normaux, là. À Chicago aussi. Ici, c'est escalier mécanique et ascenseur. Ensuite de ça, maintenant, sur les stations qui ont beaucoup d'achalandage, c'est 2 sorties d'évacuation par station. Après ça, l'aération, c'est plus les mêmes normes qu'avant. Des gros aérateurs pour cas d'incendie. Après ça, le calcul de la superficie, c'est plus les mêmes calculs qu'avant. Avant, tu figurais une station au pif, tu savais pas trop combien il allait avoir de monde. Maintenant, il faut que tu sois bien certain de ton coût. Puis s'il y a beaucoup d'achalandage, le calcul de la superficie pour l'air des billets, etc., tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais il n'y a pas juste ça. Puis là vient le stuff intéressant. Parce que Mme Rouleau, elle a fait une comparaison avec le REM en disant « Ah, le REM, ils sont donc bien bons, le REM! Eux autres, ils ont fait 23 stations avec 10 milliards. Puis la STM, ils sont pas capables de faire une station à 1 milliard. » Bon, premièrement, la STM paye des taxes. Le REM ne paye pas de taxes. Peux-tu croire à ça, toi? La STM
pourquoi?
Est obligée... Mais je ne sais pas, ça doit être à cause de leur statut. C'est un opérateur, l'autre, ce n'est pas un opérateur, c'est une corporation. Écoute, des compagnies qui payent des taxes pour faire des équipements publics, il n'y en a pas. T'sais, le pont Champlain n'était pas taxé. L'aéroport de Montréal, je suis pas mal certain que c'est pas taxé. Toutes les constructions, c'est pas taxé. La STM, ils taxent eux autres.
Quand tu dis taxé, c'est qu'ils payent des taxes foncières.
Non. Ils payent des taxes TPS, TVQ. Et donc, tout ce qu'ils vont construire, c'est taxable.
OK.
Puis c'est dans les coûts. Après ça, les coûts de financement. Les coûts de financement sont sur 20 ans. Ça veut dire que tu fais un emprunt de X milliards, ben le coût d'emprunt, les intérêts sur cet emprunt-là, tu dois le calculer dans ton projet sur 20 ans, pas le REM. Après ça, tu as des contingences, parce que les contingences, justement, avant, tu avais des projets, puis quand ça coûtait trop cher, ben tu augmentais le coût du projet. Mais là, non, faut que tu calcules puis que tu mettes une contingence. Puis après ça, il y a les coûts stratosphériques les coûts de construction qui n'arrêtent pas d'augmenter, puis en temps de COVID, ça augmente encore plus. Mais surtout, cerise sur le sundae, l'achat des terrains. L'achat des terrains, là, c'est que tous les terrains que STM achète sont un coût. Tu sais comment ça coûte les terrains en ce moment à Montréal. Là, je ne sais pas exactement quelle est la part du centre d'achat boulevard qu'ils sont obligés d'acheter, mais mon pif me dit que ça doit coûter une beurrée. Et tous les terrains le long de la rue Jean-Talon, ça doit coûter une méchante beurrée. Mais c'est pas juste ça qu'il faut que tu calcules. Si tu es obligé d'acheter ces terrains-là pour faire passer ta patente, après ça, tu les as, les terrains. Et tu peux faire du revenu avec ces terrains-là. Ta station est construite, tu peux construire autour, mais les revenus sont pas considérés dans le prix.
C'est-tu à quoi ça me fait penser, tout ça, ces coûts-là, Luc? On va terminer là-dessus. Ça coûterait moins cher si tout le monde avait son char. Bye, Luc, à demain.
Ah, mais puis il me coupe là à part de ça. Ben,
et puis salut Henri, puis félicite-le de jouer du piano. Puis la prochaine fois qu'il joue du piano, 1, ça ne nous dérange pas, puis 2, il est bon, puis tu l'encourages.
OK, merci.